Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir, le retour des héros à l'issue de la première semaine des Jeux Olympiques. 34 médaillés français sont rentrés du Japon pour défiler tout à l'heure à Paris avec leurs supporters devant la Tour Eiffel. Parmi eux, le judoka Teddy Riner qui sera l'invité exceptionnel de Marie Portolano et de Jean-Michel Rascol à partir de 18h30 dans On refait les Jeux. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron en mode influence pour tenter de convaincre les non-vaccinés. Des handballeuses sur la plage qui ne veulent plus porter de bikini. La Turquie et la Grèce ravagées par une canicule et des incendies alors que la glace fond à vue d'œil sur la banquise. L'invité de RTL Soir sera la climatologue Françoise Villemeux. Et puis la famille Panda s'agrandit aux eaux de Beauval. Une façon aussi pour la Chine de soigner ses relations diplomatiques. La météo, Claire Delorme, encore beaucoup de grisailles et de la pluie pour changer.
Exactement Alexandre, toutes les régions seront concernés par les pluies qui seront localement faibles, plus au nord de la Normandie, au bassin parisien remontant par l'eau de France. Par contre, l'instabilité demeurera assez orageuse sur le quart nord-est. Ça sera beaucoup plus sec et voilé en direction de la Méditerranée qui, elle, bénéficiera quand même d'un beau soleil. Pour les températures, il faudra prévoir entre 3 à 5 degrés en dessous de normal de saison. Elles seront comprises en matinée de 11 à 15 degrés et l'après-midi de 19 jusqu'à 25 degrés globalement.
Merci Claire, on vous retrouve à 18h30.
RTL Soir.
À cause de l'épidémie, ils avaient été privés de célébrations avec leurs proches, avec leur famille et avec leur public. 34 Français médaillés olympiques sont de retour du Japon. Ils avaient donné rendez-vous à leurs supporters cet après-midi au Trocadéro, Zoé Pallier. Et visiblement, la foule est au rendez-vous.
Oui, c'est ça. Déjà quelques minutes avant l'arrivée des champions, c'était difficile de se frayer un chemin jusqu'à la scène. Dans la foule, Eliane trépignait d'impatience. Elle est venue de Dunkerque pour applaudir l'équipe de judo.
Ça nous a pris hier. On a su qu'ils arrivaient aujourd'hui. On a dit, allez, hop, on y va.
Vous êtes fan de judo ?
On est fan des grands moments sportifs, surtout. De toute cette liesse, de tout ça. Et on veut être là pour les remercier de ce qu'on vient de vivre, quoi.
Les champions accueillis comme des rockstars ici, drapeau sur le dos et médaille autour du cou.
Ça fait bien du bien de voir les médailles revenir.
Clarisse Agbenenou se transforme même en chauffeuse de salle.
Hip, hip, hip. Ouais. Hip, hip, hip. Ouais.
Emma agite un drapeau français. Elle a le cœur qui bat la chamade.
Je savais que Teddy Riner était grand, mais il est encore plus grand que ce que j'imaginais.
On n'a pas pu être à Tokyo, mais ça fait énormément plaisir, beaucoup d'émotions et puis de la fierté. Il y a quand même un petit truc avec le sport qui est magique et qu'on est en train de revivre avec eux en live.
Et puis en ce moment, les fans font encore la queue pour espérer avoir une photo ou une dédicace.
Ah oui, évidemment. Merci Zoé Pallier pour RTL.
RTL à Tokyo.
Il manquerait plus que ça. Les Jeux Olympiques ne sont pas terminés. Il reste encore une semaine et donc des nouvelles chances de médailles pour la délégation française. On en compte 23 pour l'instant avec la médaille d'or ce matin pour Jean-Ki Campois, champion olympique du pistolet vitesse. Et puis la médaille de bronze pour l'équipe de France d'équitation lors du concours de saut d'obstacle par équipe. Parmi les images du jour, il y a aussi les larmes de Samir Aït Saïd, le gymnaste tricolore porte-drapeau de la délégation française. Il a terminé quatrième au pied du podium. Une énorme déception à cause d'une blessure au bras, Isabelle Langer.
Oui, c'est une rupture partielle du tendon du biceps gauche. Une blessure qui est apparue il y a 3 jours à l'entraînement. Depuis, Samir Aït Saïd n'avait pris aucun risque et laissé son bras au repos. Mais cet après-midi, la douleur était encore présente. Le Français a alors préféré zapper l'échauffement afin de se préserver pour la finale. Il a eu mal, très mal, pendant les 54 secondes de son mouvement, mais il a serré les dents. Cela n'a pas suffi, quatrième, mais quelques heures après avoir pleuré de tristesse d'avoir échoué dans sa quête de médaille olympique, il ne regrette rien.
Ça faisait plus d'un an et demi que je n'avais pas fait de compète avec le Covid. Et qu'est-ce que c'est kiffant. J'adore ça et je me rends compte que je suis un accro à la compète. Et en fait, c'est cette adrénaline ou le fait qu'on doit se dépasser qui me fait kiffer.
Dans l'immédiat, Samir Aït Saïd va se soigner, prendre un peu de repos, profiter de sa famille et de sa petite Mila, 4 mois. Puis il se remettra au charbon, comme il dit, parce qu'il prévient déjà.
La roue, elle finira par tourner, je sais, j'ai confiance. Et de toute façon, je suis quelqu'un qui lâche pas. J'ai en tête cette médaille olympique et j'irai la chercher.
À Paris, en 2024.
Envoyée spéciale à Tokyo pour RTL, Isabelle Langer. Tous les résultats à retrouver dans moins d'une demi-heure. On refait les jeux, 18h30, 19h, avec en invité spécial, je vous le rappelle, le judoka Teddy Riner, médaille d'argent en individuel et médaille d'or en équipe.
RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
18h05 sur RTL, les vacances d'Emmanuel Macron qui commencent sur Instagram et sur TikTok. Alors que le chef de l'État vient d'arriver au fort de Brégançon dans le Var, il a posté ce matin une vidéo sur les deux réseaux sociaux préférés des jeunes suite à la mobilisation importante contre le pass sanitaire ce week-end. Emmanuel Macron répond directement aux questions des internautes, Jacques Serret.
Oui, en t-shirt noir et se filmant lui-même avec son smartphone devant un drapeau tricolore, le chef de l'État a lancé ce matin cet appel aux internautes.
Je sais que beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs. Alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi. Et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Un court message d'une quarantaine de secondes, plus de 16 000 commentaires plus tard et presque autant de questions. Emmanuel Macron publie une seconde vidéo dans l'après-midi.
Alors première question, je suis jeune, en bonne santé, je n'ai donc pas de raison de me vacciner parce que je ne ferai pas de forme grave du Covid. Alors ma réponse est simple. D'abord, on n'est jamais sûr. Il y a des jeunes en bonne santé qui se sont retrouvés à l'hôpital, aux urgences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Covid long. Enfin, si vous ne le faites pas simplement pour vous, faites-le pour vos proches.
Exercice de pédagogie inédite en plein milieu de l'été alors qu'il débute à peine ses vacances au fort de Brégançon. Quant au choix des plateformes Instagram, TikTok, il est loin d'être anodin et dans l'entourage du président, la stratégie est assumée. Le président veut aujourd'hui convaincre les jeunes, explique un conseiller. Il faut dire que la vaccination chez les 18-24 ans patine. Seul un peu plus d'un jeune sur trois a reçu au moins une première dose.
Jacques Serret du service politique de RTL. Cette question-là, le président n'y a pas encore répondu. Les vaccins pourraient-ils être à l'origine de troubles menstruels. Dans son dernier point de situation sur les différents effets secondaires, l'agence du médicament annonce avoir reçu un peu plus de 250 signalements qui concernent les règles. C'est suffisant pour porter ce signalement au niveau européen. Alors à ce stade, on parle d'un signal potentiel. Odile Pouget, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ?
Non, aucune raison, même si les témoignages de femmes se multiplient sur les réseaux sociaux. Des femmes qui s'étonnent dans la foulée de la vaccination, d'avoir des règles plus abondantes, des douleurs plus intenses, des cycles décalés. Il n'y a pas pour l'instant de lien avéré avec le vaccin. Le cycle menstruel se dérègle très facilement. Il suffit pour cela d'un tout petit changement au quotidien, comme le rappelle le docteur Joëlle Belaïch-Allard, présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
Un épisode infectieux, de la fièvre, le stress, la fatigue, de multiples causes peuvent intervenir pour changer un peu le cycle menstruel. La vaccination, pour qu'elle soit efficace, qu'elle déclenche une réponse immunitaire. Peut-être que cette réponse immunitaire ou cette fatigue peut entraîner un trouble du cycle, mais ça n'est pas le vaccin en lui-même. Et deuxièmement, ça n'a aucune importance. Je crois que c'est vraiment ça le point important qu'il faut bien dire à toutes les femmes.
En juin dernier, l'agence du médicament avait indiqué qu'aucun trouble menstruel n'avait été enregistré lors des essais clinique des quatre vaccins actuellement autorisés. En revanche, de tels effets ont déjà été rapportés après la vaccination contre la grippe.
Odile Pouget pour RTL. L'immunité collective atteinte pour le début de l'automne, c'est une possibilité, a estimé ce matin le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, qui était l'invité de RTL. Immunité collective, ça veut dire que 90% des 12 ans et plus auront été vaccinés ou infectés. Un chiffre inquiétant, malgré la baisse du nombre de féminicides l'an dernier, une étude révèle que parmi les victimes, une sur cinq avait porté plainte. Et dans ce contexte, sans doute un nouveau féminicide dans l'Aveyron, au sud de Rodez. Une femme a été retrouvée morte, tuée à l'arme blanche. Son conjoint pourrait l'avoir tuée avant d'essayer de mettre fin à ses jours. On en sait un peu plus, mais ça reste encore très mystérieux, Patrick Tégéraud.
Oui, le parquet de Rodez vient d'ouvrir une enquête du chef d'homicide volontaire et nous donne quelques informations sur les minutes qui ont précédé le drame. Un repas de famille était prévu, plusieurs parents étaient réunis dans une même voiture conduite par le meurtrier présumé. Avant d'entrer dans le village de Calmont, il explique qu'il veut aller satisfaire un besoin naturel et il engage la voiture dans un chemin. Il descend vers la rivière Le Vior et ne le voyant pas revenir, sa compagne le rejoint. Et ce sont les autres membres de la famille qui découvrent les corps. La jeune femme morte, égorgée, était sur la rive. 10 mètres plus loin, l'homme ensanglanté était prostré prostré dans le lit de la rivière, un couteau de poche pliable à côté de lui. Alors, il n'y a eu aucun témoin de ce qui s'est passé et l'agresseur présumé ne peut pas être entendu encore car il est hospitalisé et son pronostic vital est engagé. Ses blessures vont être expertisées pour déterminer s'il a pu se les infliger lui-même. Pour l'instant, le mystère reste entier car il n'y avait pas de mésentente connue et le trajet en voiture s'était déroulé tranquillement, sans aucune tension.
Les précisions de Patrick Tégéraud pour RTL. Dans un instant, la colère qui monte chez l'équipe de France de beach handball. Elle refuse de continuer à porter le bikini.
RTL Soir. RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
Il est 18h10 sur RTL, c'est la suite du journal avec les joueuses de beach handball qui ne veulent plus passer pour des potiches lors des compétitions. Elles sont obligées de porter un bas de bikini. De bikini, ce qui avait déclenché déjà une fronde des joueuses norvégiennes lors de l'Euro. Souvenez-vous, elles avaient dû payer une amende. Cette fois, ce sont les Françaises qui montent au créneau. Elles ont écrit une lettre à leur fédération, la Fédération Française de Handball. Avec nous pour en parler ce soir, son président Philippe Bana. Alors, est-ce que vous comprenez ce mouvement de ras-le-bol?
Oui, le vrai débat, c'est pas tellement l'obligation du port, c'est surtout la liberté de choix. Laisser la liberté de choix aux filles de décider quelle tenue elles veulent porter, il y en a plusieurs, c'est ce qui nous apparaît le plus important dans l'avenir, soutenir ces équipes, ces jeunes femmes qui ne sont pas effectivement des potiches, et soutenir une forme d'éthique, une forme de respectabilité de l'image de la femme.
D'où est-ce que ça vient, cette tenue pour les joueuses?
C'est la Fédération internationale qui fixe la tenue et le règlement. Elle l'a fixée comme ça depuis le début, donc les fédérations continentales et européennes la déclinent. Il y a eu déjà des motions qui ont été défendues il y a 6 mois au congrès de la Fédération européenne. Elles n'ont pas abouti. Il faut continuer le combat. Aujourd'hui, on a un devoir éthique, on a un devoir d'image, on a un devoir de valeur sociale et sociétale. Et la femme n'est pas un objet, c'est bien aussi la liberté de choix aux athlètes de porter un équipement adapté à ce qu'elle désire, elle, que ce soit un bikini ou autre chose.
Voilà, donc il faut leur laisser le choix. Mais s'il y avait pour vous une tenue idéale, ce serait quoi?
Ça existe dans d'autres sports et d'autres endroits. Il y a des alternatives, c'est-à-dire vous pouvez mettre un bikini, un tanga, un shorty. C'est ce qu'avaient décidé les Norvégiennes. Et dans ces outils-là, chaque joueuse est libre de porter ce qu'elle veut, ce qui lui convient le mieux, ce qui lui sied le mieux, ce qui lui permet de faire sa meilleure performance. Et je pense que c'est vers cette direction qu'il faut aller, et non pas dire aussi on va imposer la même chose forcément à tout le monde, ce qui est souvent un souci à l'international.
On imagine mal les joueurs de beach handball en jouer en slip. Est-ce qu'il y a des avantages quand même à cette tenue pour les joueuses de handball?
C'est une question de confort personnel, c'est une question d'image personnelle. On est sur du sable, le sable c'est quelque chose qui peut brûler, qui peut esquinter, donc il faut être très attentif à toutes ces petites choses-là. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est protection de la joueuse, protection de son intégrité, mais aussi de son image et de sa liberté de choix.
Pour l'instant, qui a la décision sur la tenue des joueuses? C'est la Fédération internationale de handball, c'est ça? C'est les instances internationales?
Oui, quand on a écrit aux fédérations européennes après cette décision, elles nous ont répondu que c'était à la Fédération internationale de décider pouvait y avoir un changement ou pas, et que cela avait été convenu après les Jeux Olympiques. On est aux Jeux Olympiques. Nous poserons dès demain avec les dirigeants ces questions pour qu'elles soient résolues le plus vite possible dans l'intérêt de l'image de la femme et de l'image du handball.
Vous avez l'impression que parfois ces dirigeants, ils manquent peut-être un peu de modernité?
Non, pas forcément. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a une vision sociétale à avoir, des identités dans l'image de la femme. Et aujourd'hui, les fédérations continentales, internationales, elles ont cette responsabilité médiatique aussi de montrer des valeurs qui soient adaptées à la demande d'aujourd'hui.
Voilà, je retiens notamment qu'il pourrait y avoir donc un changement après les Jeux Olympiques. On suivra ça. Merci en tout cas, Philippe Bana, président de la Fédération Française de Handball.
RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
Quand notre planète donne de plus en plus l'impression d'avoir perdu la boule après les terribles inondations en Belgique et en Allemagne, des gros coups de chaud dans l'océan Arctique et maintenant en Grèce, la pire canicule depuis 30 ans, avec des pointes à 45 degrés aujourd'hui et demain, le gouvernement a même décidé de fermer les principaux sites touristiques à Athènes, Alexia Kefalas.
Oui, les rues d'Athènes sont très très calmes et autour des sites archéologiques comme l'Acropole ou le Temple de Zeus, eh bien, personne ne circule. D'ailleurs, ces sites étaient fermés au public ce midi et le seront demain. demain, toute la journée. L'image est inédite, voire surréaliste en plein mois d'août au pic de la saison touristique. Avec des températures qui pourraient dépasser les 44 degrés demain, la Grèce affronte sa pire canicule depuis 1987. À l'époque, il n'y avait pas de climatisation et la pollution atmosphérique était telle que cette vague de chaleur avait fait plus d'un millier de morts. Cette fois, la catastrophe est écologique. Les températures si fortes et les vents violents ont déclenché des dizaines d'incendies à travers le pays et notamment sur l'île de Rhodes où des villages touristiques ont été évacués. Pas de victimes à déplorer pour le moment, mais le danger est croissant. D'ailleurs, le ministère grec de la protection civile estime que le risque de départ d'incendie est maximal pour ces prochains jours.
Alexia Kefalas pour RTL en Grèce. Vague de chaleur en Europe, mais aussi au Groenland avec 23 degrés la semaine dernière. Une répétition des phénomènes climatiques qui nous inquiète. On va essayer d'en savoir un peu plus dans quelques minutes avec la climatologue Françoise Vimeux, invitée de RTL Soir.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et oui, une bonne nouvelle dans la famille Panda, je demande les jumelles. Un heureux événement la nuit dernière au zoo de Beauval. C'est la deuxième fois que la mère Juan Juan donne naissance à des bébés en France. Une femelle panda qui a été prêtée par la Chine, qui garde ainsi un lien privilégié avec la France. C'est d'ailleurs en Chine que le prénom des deux jumelles sera choisi à Pékin. Les explications signées Stéphane Pambrin.
La photo de la maman Juan Juan s'étale à la une des journaux en Chine où chaque naissance d'un bébé panda est une fête. Cet ours bicolore noir et blanc est considéré ici comme un trésor national. Alors des jumelles, c'est évidemment un événement. Tout est affaire de tradition ici. Ça fait plus de 2000 ans que la Chine pratique ce que l'on appelle la diplomatie du panda, qui consiste à offrir, ou plus récemment à prêter, un panda à un pays ami. C'est le cas avec Juan Juan, arrivé en France avec Yuan Zhe, un mâle, il y a 10 ans. La Chine suit avec attention ses naissances. Une soigneuse du centre de recherche sur le panda géant de Chengdu est venue spécialement en France pour les naissances. Elle a réussi à s'emparer de l'un des bébés pandas pour lui prodiguer les soins et le placer en couveuse. Il pesait 149 grammes, l'autre seulement 128 grammes. Ils sont en bonne santé et pèseront plus de 100 kilos à l'âge de 4 ans, âge prévu de leur retour en Chine. C'est également en Chine que l'on choisira le prénom des jumelles. Ce sera dans 100 jours, selon la tradition, lors d'une cérémonie. 500 pandas vivent en captivité et 2000 à l'état sauvage en Chine.
Stéphane Pambrin, le correspondant en Chine pour RTL. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, Françoise Vimeux, climatologue. Alors que 22 gigatonnes de banquise ont fondu en une seule journée au Groenland, ça nous inquiète et on va tenter de comprendre.
RTL Soir. Comme.
RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
18h18 sur RTL, l'invité de RTL Soir. Elle est climatologue, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement. Françoise Vimeux, bonsoir.
Bonsoir.
Au Groenland, la calotte glaciaire fond à vue d'œil à cause d'une vague de chaleur jusqu'à 23 degrés jeudi dernier. 22 gigatonnes de glace en moins en une seule journée. Pour être très concret, c'est l'équivalent de la surface de la Floride ou à peu près la moitié de l'Allemagne qui a fondu en un jour. Et ça continue. Vous qui êtes climatologue, est-ce que ça vous inquiète ?
Alors, c'est inquiétant, mais c'est pas surprenant pour nous climatologues, en fait. On sait que le dérèglement climatique vient exacerber les événements extrêmes, que ce soit des événements de canicule, de vagues de chaleur, comme vous en parlez au Groenland ou en Grèce, ou que ce soit des événements extrêmes liés aux pluies. Donc, beaucoup de pluies, des pluies même diluviennes, comme on a vu là récemment en Belgique et en Allemagne, ou alors des déficits de pluies très intenses, comme on voit en Californie depuis plusieurs années maintenant.
Là, la fonte des glaces au Groenland, quelles conséquences ça peut avoir sur le niveau des océans ?
Alors, la fonte des calottes polaires et de manière générale des glaces continentales, c'est-à-dire des glaces qui sont posées sur la roche, ça vient directement alimenter le niveau des mers et ça vient le faire augmenter. Aujourd'hui, l'augmentation du niveau des mers, c'est 3,3 mm par an. C'est une augmentation qui est beaucoup plus forte qu'au milieu du XXe siècle où on était entre 1 et 1,5 mm par an. Et cette augmentation, elle est essentiellement due à la fonte des glaces qui se trouvent sur les continents. Donc la fonte en fait de la calotte groenlandaise vient directement alimenter l'augmentation du niveau des mers que l'on prévoit qui peut être à près de 1 mètre pour la fin du siècle.
Vous nous dites que c'est un phénomène qui n'est pas nécessairement surprenant. Ça a déjà eu lieu, cette fonte de la calotte glaciaire en 2012 et en 2019 avec des niveaux qui étaient à peu près comparables. Mais on a l'impression quand même que ça se répète de plus en plus vite.
Oui, alors en 2019, il y avait des volumes de glace beaucoup plus importants qui avaient fondu. Ce qui est assez exceptionnel avec l'événement que l'on a ces jours-ci, c'est que la fonte concerne une surface beaucoup plus importante du Groenland qu'en 2019 et qu'en 2012. Effectivement, ces événements se répètent. Et comme je le disais, c'est pas surprenant parce qu'on sait que ces événements de vagues de chaleur, en particulier sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord, vont être beaucoup plus fréquents et aussi beaucoup plus intenses parce qu'on sait que les hautes latitudes de l'hémisphère nord se réchauffent beaucoup plus que les latitudes moyennes où nous sommes, nous, par exemple, en France, ou alors les régions tropicales.
Vous avez peut-être vu que le gouvernement danois, donc, qui contrôle le Groenland, a interdit les nouvelles exploitations pétrolières au Groenland. Ça va dans le bon sens? Ça va être suffisant?
Alors, est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Oui, ça va dans le bon sens parce que effectivement, il faut aller vers l'atténuation du changement climatique. Et ça, ça passe par la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est peut-être important de dire, c'est deux choses. D'une part, que notre climat, il est déterminé jusqu'à à peu près 2050 par les émissions passées que nous avons déjà mis dans l'atmosphère, mais qu'on a encore la main sur la deuxième partie du 21e siècle. Donc, on a encore le choix de l'amplitude du changement climatique. Et puis la deuxième chose qui est importante peut-être à dire, c'est que le risque d'avoir une canicule, il n'est pas proportionnel au réchauffement. Ce risque, il augmente beaucoup plus fortement que le réchauffement. Et donc, oui, toute initiative est bonne à prendre. Après, est-ce qu'elle est suffisante? Eh bien, ça va dépendre finalement de quelle va être la hauteur de ces initiatives.
On a la fonte de la calotte glaciaire au Groenland. On a eu aussi toute une série de catastrophes cet été. Des inondations en Europe, le dôme de chaleur au Canada, quand je pense également au Brésil, en Amérique du Sud, où on a là, en l'occurrence en ce moment, des températures négatives, des records de température. Est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec ces catastrophes naturelles maintenant ?
Alors, il va falloir apprendre à vivre avec, d'une part, des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes en France hexagonale, voire plus précoces, comme on a eu en 2019 au mois de juin. Et pour ce qui concerne les pluies intenses, oui, c'est malheureusement des événements qui vont venir se répéter. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand l'atmosphère est plus chaude, elle peut contenir plus d'eau. On dit que c'est 7%, enfin la physique nous dit que c'est 7% en plus d'eau qu'on peut mettre dans l'atmosphère à chaque fois que cette atmosphère se réchauffe de 1 degré. Donc c'est 7% d'eau qui peut nous retomber dessus lorsqu'il y a une situation météorologique qui conduit à une pluie. Et même sur des pluies très courtes, donc des orages, on sait que le volume des pluies peut augmenter jusqu'à près de 15%.
Comment est-ce qu'on peut se prémunir face aux... Comment on peut adapter en tout cas notre mode de vie face aux événements climatiques ?
Alors, il est clair que à côté de l'atténuation, il y a l'adaptation qui est absolument nécessaire parce que, comme je le disais, on va vers des années difficiles parce que tout est déjà en quelque sorte écrit jusqu'à 2050. Je pense qu'il faut arrêter d'être surpris de ces événements extrêmes parce que lorsque l'on est surpris, c'est que l'on est en quelque sorte dans le déni. Et il faut vraiment s'adapter dès qu'il y a des alertes de Météo France. C'est-à-dire que là, par exemple, les pluies qui étaient prévues en Belgique et en Allemagne ont été vraiment bien anticipées à 48 heures, à la fois en termes du moment où elles allaient arriver et aussi de la quantité de pluie. Et puis, donc, il faut essayer d'avoir des gestes qui permettent de ne pas arriver à des mortalités vraiment très importantes. Et puis, il faut aussi anticiper sur les infrastructures urbaines. Il faut éviter d'acheter des logements qui sont près des ruisseaux. Pour les canicules, il faut vraiment repenser l'architecture des villes. On sait que les villes, en fait, bétonnées, sont des îlots de chaleur particulièrement insupportables pendant les canicules. Donc il y a vraiment des adaptations au quotidien qui sont possibles.
Voilà, il va falloir apprendre à vivre avec. Merci beaucoup Françoise Vimeux. Je rappelle que vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTL.
Merci à vous.
Bonne soirée. Allez, dans un instant, le programme télé de votre soirée avec notamment un espion bien français.
RTL Soir.
RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
18h26, il est l'heure de jeter un œil sur votre plateau télé du soir. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
Soirée doc et ciné ce soir.
Oui, documentaire d'abord avec ce qui jusqu'en 2018 était le cold case, l'affaire non résolue, la plus célèbre de l'histoire moderne, celui de la mort d'Adolf Hitler. Mort, disent les livres d'histoire, par suicide dans son bunker le 30 avril 1945. Ce soir, la chaîne parlementaire LCP rediffuse un doc déjà diffusé par France 2 il y a 3 ans, un horaire indécent à l'époque. Mmh. Ce soir, vous pouvez le voir à 20h30, c'est mieux. Ouais. Pourquoi ce documentaire est un incontournable ? Tout simplement parce qu'en 2017, les Russes avaient autorisé pour la première fois depuis 1946 à un scientifique étranger, en l'occurrence un médecin légiste et anthropologue français, d'avoir accès aux restes attribués à Adolf Hitler et récupérés par l'armée russe en mai 1945 lors de la prise de Berlin. Un fragment de crâne retrouvé, conservé dans une boîte à disquettes, mais surtout des éléments de mâchoire, en l'occurrence de l'os, des dents et des prothèses dentaires conservées au quartier général des services russes secrets.
Sans dire un mot, un agent lui présente une boîte. Ce pourquoi Philippe Charlier est venu se trouve dans ce petit coffret. À y regarder de plus près, il découvre qu'il s'agit d'une vieille boîte à cigarillos. Dedans, jetées pêle-mêle des dents, celles supposées d'Hitler.
Il a fallu négocier pendant 2 ans avec les Russes, nous racontons, pour que cette étude puisse être menée. 2 ans pour que la caméra de Jean-Christophe Brizard puisse filmer cette enquête qui débute donc à Moscou, dans ce lieu secret. Et vous allez l'entendre, c'est pas gagné d'avance pour que le docteur Philippe Charlier puisse examiner ses ossements.
Ok, alors j'ai le droit de faire quoi ? Est-ce que j'aurais au moins la possibilité de mettre des gants et de le prendre dans les mains pour regarder l'autre côté, s'il vous plaît ?
Il est temps, non ? Nikolai, le temps est dépassé depuis déjà 35 minutes.
Ça sera niet pendant tout le temps. S'il devra se contenter d'une observation extérieure du crâne supposé d'Hitler, ce ne sera pas le cas avec les restes de dentition.
C'est bien ça. Franchement, à titre scientifique, c'est passionnant. En fait, on a ici l'émail dentaire qui est visible, et puis on a la prothèse tout autour, et on a des traces d'oxydation ici. Peut-être que ça, ces défauts, sont liés en fait à une oxydation du tissu de soutien, à moins que ça soit un défaut de construction, ce qui signerait dans ce cas-là une prothèse quand même de mauvaise qualité.
Il faut quand même vérifier 2 choses. La première, c'est que ce n'est pas un faux historique ou archéologique, et qu'il les a utilisés, et donc avoir une confirmation chimique que le dépôt qui les recouvre en partie est bien du tartre dentaire et que ce n'est pas un faux réalisé par une quelconque partie soviétique ou américain.
Les Russes ont visiblement autorisé ces analyses qu'ils ont toujours refusées. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, Jean-Christophe Brizard nous raconte dans ce documentaire que les Russes voulaient sans doute laver leur honneur, accusés de mentir sur ces fameux restes d'Adolf Hitler. Il faut dire que Staline avait pas mal enfumé les alliés à la fin de la guerre, en faisant croire même qu'Adolf Hitler s'était enfui en Amérique du Sud. Ce documentaire passionnant se regarde comme un film, presque comme un épisode de la fameuse série Cold Case, le mystère de la mort d'Hitler sur LCP 20h30, suivi d'un débat animé par Jean-Pierre Gratien, féru d'histoire, ce programme est pour vous.
Bon, et si on veut un petit peu de légèreté, vous avez promis du cinéma.
Alors, à l'avant-veille de la sortie du 3e volet des aventures de l'agent secret, Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, M6 a la bonne idée d'offrir une piqûre de rappel. Avec OSS 117, le Caire, Nid d'espion, 1er volet des aventures d'OSS avec un Jean Dujardin hilarant, sous la direction à l'époque de Michel Hazanavicius, film sorti en 2005, où le célèbre agent secret était envoyé en 1955 au Caire pour enquêter sur une mystérieuse secte religieuse. Et OSS 117, c'est ça.
Vous voyez l'automobile derrière moi ?
Oui.
Ça fait un petit moment que je l'observe.
Eh bien ?
Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
OSS 117, le Caire, Nid d'espion, 21h sur M6, suivi d'un doc sur Jean Dujardin. Et rendez-vous donc après-demain au cinéma avec OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Je vous recommande chaudement d'aller réécouter l'entretien diffusé ce matin dans Laissez-vous tenter et réalisé par Stéphane Bounsock avec Jean Dujardin, Pierre Ninet et Nicolas Bedos qui réalise lui ce 3e volet. Je vous signale enfin en un mot les séries de ce soir, Camping Paradis sur TF1, Motive sur France 2. On a droit d'être aussi séries télé pendant l'été.
Mais oui, forcément. Merci beaucoup Laurent et à demain.
À demain.
18h30 sur RTL.
RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
Opération question-réponse pour Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Le président tente de s'adresser aux jeunes pour les convaincre de se faire vacciner. Une initiative qui intervient alors que plus de 200 000 personnes ont manifesté ce week-end contre le pass sanitaire. L'immunité collective atteinte pour le début de l'automne. C'est une possibilité, c'est ce qu'a estimé ce matin le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Alain Fischer était l'invité de RTL. Immunité collective, ça veut dire que 90% des 12 ans et plus auront été soit vaccinés, soit infectés. 102 féminicides en 2020. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande aux policiers désormais de traiter les affaires de violence conjugale en priorité. Parmi les victimes, l'an dernier, une sur cinq avait porté plainte. Des incendies mortels en Turquie et en Grèce, ravagés par une vague de chaleur. L'Union européenne a envoyé sur place 3 avions bombardiers d'eau, alors que la Grèce est frappée par la pire canicule depuis 30 ans, selon son gouvernement. 23 médailles désormais pour la France, pour les Français à Tokyo, avec la médaille d'or ce matin pour Jean Quiquempoix, champion olympique du pistolet vitesse. Médaille de bronze pour l'équipe de France d'équitation lors du concours de saut d'obstacle par équipe. Grosse déception en revanche pour le gymnaste Samir Aït Saïd, blessé, il est arrivé 4e. La météo, Claire Delorme, parapluie indispensable pour demain.
Exactement, il faudra absolument l'avoir sous le coude car toutes les régions presque ne seront pas épargnées par les pluies. Donc la Méditerranée, elle, bien évidemment, conservera de très belles éclaircies toute la journée, mais partout ailleurs, ça sera la grisaille qui va dominer, particulièrement en matinée de la façade ouest en s'étendant vers les régions centrales. Elle apportera localement quelques pluies faibles, des pluies d'ailleurs qui seront beaucoup plus marquées et soutenues en matinée dans la région Grand Est. Alors dans l'après-midi, ça va un petit peu se morceler, laisser passer quelques éclaircies, mais on aura toujours de très bonnes averses. Et puis concernant le bassin parisien, les Hauts-de-France en direction de la Normandie, ça sera un ciel beaucoup plus mitigé avec là aussi quelques petites averses qui seront locales, beaucoup de passages nuageux, mais aussi là encore quelques éclaircies pour les plus chanceux. Côté température, on est 3 à 5 degrés en dessous des normales de saison, donc c'est pas très réjouissant pour un début août. Il faudra compter en matinée entre 11 et 15 degrés en général, et puis donc dans l'après-midi entre 20 et 23 degrés sur la majeure partie du pays, avec 18 à 20 degrés pour les bords de Manche, et tout même avec des températures un petit peu plus estivales encore près de la Méditerranée, entre 29 et 30 degrés.
Merci Claire. Dans un instant, on refait les jeux. Bonsoir Marie Portolano.
Bonsoir.
Avec un invité exceptionnel ce soir.
Un invité exceptionnel qui n'est pas le soleil, visiblement,
parce qu'il
n'est pas là. Il est mort, le soleil.
Il est mort, le soleil. Pour l'instant, oui. On va le faire ressusciter.
C'était dire une heure qu'il sera avec nous dans un instant.
C'est un peu de soleil quand même.
Oui, c'est un soleil.